Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission de René Friedman, qui, en partenariat avec le quotidien du médecin, aborde la cinquième émission de cette série sur science-fiction et science du futur. Encore que, aujourd'hui, on va plutôt être sur science-fiction et puis, je dirais, peut-être le futur sans science, puisque le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est autour des mères porteuses. Et nous allons pouvoir discuter avec deux personnalités, deux femmes qui sont là. D'une part, Carole Desbarras et d'autre part, Myriam Siégère. Carole Desbarras, que je vous présente pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous avez d'une part eu plusieurs vies, au sens où vous avez été directrice de à la Fémis, au cinéma. Vous occupez surtout actuellement des séries au Havre. Hein, vous adorez les séries, donc ça tombe bien, parce qu'on va en parler d'une grande, d'une belle. Et puis vous êtes aussi au comité de rédaction de Esprit, qui permet la revue Esprit, qui vous permet justement de vous exprimer. En ce qui concerne Myriam Siégère, qui est psychanalyste et qui est médecin, nous avons le plaisir de voir que vous vous occupez de tout ce qui est la relation humaine, particulièrement des bébés, puisque vous vous occupez de la cause des bébés, que vous occupez de diplômes d'université pour autour de la naissance, qui est votre thématique favorite, et que vous avez rédigé un livre qui s'appelle « Abandon sur ordonnance », dont une nouvelle édition va paraître bientôt. Vous allez nous expliquer cela. Donc la thématique aujourd'hui, c'est à partir d'une série qui est importante, parce qu'elle fixe un certain nombre de conduites humaines autour de, j'ai dit, la gestation pour autrui, et qui s'appelle donc « La servante écarlate ». Et je cède la parole à Carole Desbarras.
Oui, La servante écarlate est tirée d'un roman à très très grand succès et à juste titre, parce que c'est un très beau texte, de Margaret Atwood, qui a été écrit en 1984. Et la série, elle, date de 2017, donc elle est tournée en 2016. L'écart entre ces deux dates est important parce que ça va permettre de comprendre certaines positions récentes par rapport à la question de la GPA. En tout cas, disons que peut-être l'intrigue, pour qu'on puisse savoir un petit peu ce dont il s'agit pour ceux des auditeurs qui ne connaîtraient pas la série. Disons qu'il s'agit d'une théocratie totalitaire qui s'installe aux États-Unis et qui remplace les classes par des castes et qui discrimine les genres. En fait, une catastrophe environnementale non précisée semble avoir complètement fait baisser la fertilité chez les hommes et les femmes, même si l'idéologie totalitaire dit que ce sont les femmes qui ne sont plus fertiles, mais enfin le fait est là.
Classique.
Voilà, c'est sûr, ça ne nous étonne pas. Et les femmes se voient, dès l'épisode 1 de la saison 1, privées de leurs droits. C'est absolument terrifiant, vous les voyez dans une banque, enfin dans un commerce, voir leur carte bleue ne plus fonctionner parce que toutes les cartes des femmes ont été bloquées. Et 5 minutes plus tard, les voir exclure de leur travail. Et donc, n'ayant plus ni argent ni travail, elles sont cantonnées à l'intime, la maison, le service, voire le service sexuel et l'esclavage sexuel, puisque les femmes fertiles sont placées dans les maisons des plus puissants de ces messieurs.
Les commandants.
Voilà, les commandants, et destinées à procréer des enfants pour perpétuer le pouvoir.
Ouais. Elle reprit « Voici ma servante ». Mila. Va vers elle. Et qu'elle enfante sur mes genoux. Car par elle, j'aurai moi aussi un enfant. Elle lui donna donc Bila, sa servante, pour accomplir son devoir d'épouse. Et je Jacob s'unit à celle-ci.
Voilà, vous venez d'assister en direct à la cérémonie, ce qu'on appelle la cérémonie, c'est-à-dire que la captive, on va dire, hein, de ce système totalitaire de la République de Gilad, c'est une république où, oui, une République de Gilad ça s'appelle comme ça, va être donc entre les jambes de l'épouse du commandant et va donc avoir un rapport sexuel qui est pas très très gai, hein, on va dire, puisqu'on entend qu'il récite justement la Bible revue et conjuguée. Et c'est effectivement une scène assez étonnante par rapport au débat, hein, je dirais, que l'on a aujourd'hui, enfin, ou que l'on n'a pas d'ailleurs, puisque c'est pas à l'ordre du jour des lois de bioéthique, mais enfin, c'est quand même dans la société, et puis il y a tout ce qui se passe dans le monde, donc on va en discuter dans un instant avec Myriam Siegère. Mais auparavant, je voudrais revenir sur l'actrice que je trouve assez extraordinaire, Elisabeth Moss, et qu'on retrouve d'ailleurs, paradoxalement, dans un autre film qui est de Jane Campion, qui est Top of the Lake, et dont l'épisode numéro 2 parle de China Girl, et ça va être l'histoire de l'exploitation sexuelle des jeunes filles asiatiques.
Juste un petit mot sur Elisabeth Moss, vous avez raison de la remarquer. Moi, je pense que c'est une très grande actrice et qu'elle va, crever l'écran et l'histoire des séries et du cinéma. Elle s'est fait une spécialité de rôle de femme rebelle, de femme qui n'accepte pas et qui peut tenir tête à des systèmes, des hommes, enfin bref, etc. On l'a vu dans Mad Men aussi, faudrait le dire. Elle était cette jeune femme dans Mad Men qui justement tenait tête dans les années 60 au système patriarcal, masculin, en œuvre à New York. Sur la question graphique et esthétique, vous avez raison, il y a une volonté extrêmement forte du showrunner. Le showrunner, c'est dans une série, c'est la personne qui est à la fois le producteur, qui gouverne tout le scénario, qui surveille jusqu'au costume et qui a un pouvoir fou. C'est une nouvelle profession qui change complètement le rapport de l'audiovisuel actuellement. Et le showrunner, qui s'appelle Bruce Miller, a vraiment tenu à ce que la série soit esthétiquement très belle. Mais c'est très intelligent, parce qu'il s'agit d'une série d'une cruauté sans nom, et que la représentation de la violence est quelque chose de grave. Et on voudrait que beaucoup de cinéastes et beaucoup de responsables de série aient la responsabilité morale de Miller. Lorsqu'il choisit de faire un lynchage, il va prendre des points de vue extrêmement sophistiqués, mais c'est à la fois pour distancier et nous permettre de vivre le lynchage, mais sans être uniquement dans l'émotion. La figure de style, je dirais, la plus caractéristique de cette série, c'est la plongée totale, c'est-à-dire vous avez la caméra totalement en hauteur, qui montre les personnages, un peu comme des microbes, mais c'est un mixte entre les plongées totales de Busby Berkeley, peut-être connaissez-vous, les comédies musicales des années 40 américaines, où vous aviez des centaines de chorus girls qui faisaient des étoiles de mer dessinées au sol.
Mais ils n'avaient pas de drone à ce moment-là pour filmer.
Non, ah, c'était la grue, vous avez raison. Et puis un mixte avec Hitchcock, qui lui aussi faisait des plongées totales. Et c'est vrai que la mise en scène là mélange le plaisir chorégraphique revendiqué par Bruce Miller et l'angoisse d'Hitchcock. D'ailleurs, il y a des références hitchcockiennes très très fortes dans la Servante et l'Écarlate. J'en prendrai qu'une pour pas être trop long. Le chignon de Selena, qui est la femme du commandeur et donc l'homme de pouvoir. Ce chignon, on la voit très souvent de dos, et c'est le chignon de l'héroïne de Vertigo de Hitchcock, clairement. Et là, c'est pas juste une citation, c'est on se situe dans la continuation des représentations des femmes dites froides. Simplement, en 2017, on n'analyse pas cette froideur comme Hitchcock le faisait dans les années 60.
Le fait que ce soit une série avec plusieurs saisons, et vous avez vu toutes les saisons, et je crois que la troisième, que je n'ai pas vue, est un peu critiquée. Est-ce que vous voyez une évolution par rapport à cette thématique forte que nous abordons aujourd'hui, de l'asservissement des femmes à la volonté d'un pouvoir? Est-ce que vous voyez une évolution dans cette série, enfin dans ces différentes saisons?
Il me semble qu'il y a une évolution au fur et à mesure que la série s'éloigne du roman. Pour moi, la saison 1 est incomparablement plus forte. Vraiment. Elle tient, tout est en place. Et ça vient beaucoup du livre, mais pas uniquement. Parce qu'il y a vraiment la touche de Bruce Miller. Et puis les années 2016, on ne réfléchit pas comme 1984. Et puis, il y a quelque chose, par exemple, moi non plus, j'ai pas vu la saison 3, mais j'ai vu la saison 2. Je trouve que la saison 2 est moins forte pour une raison simple, c'est que, d'une part, on s'éclate sur plusieurs personnages, on n'est pas simplement sur le personnage principal. Et par ailleurs, il y a une espèce de fascination de la question de la maternité biologique, qui emmène petit à petit à oublier ce que peut aussi être un parent, c'est-à-dire un parent qui n'est pas biologique. Et en creux, je trouve que c'est moins convaincant que ce qui se passe dans la première saison, où la question sociale est aussi forte que la question de la maternité, et la maternité est liée à cette question sociale.
Myriam Siegère, qu'est-ce que vous pensez de cette série ?
D'abord, je vois que je suis la seule à avoir vu la saison 3, donc je m'en félicite. Et je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, la question de la maternité sociale est largement développée dans cette dernière saison, où là, la partie rebelle devient au premier plan, avec un point de vue féministe de plus en plus développé. Je trouve que peut-être c'est moins intense et moins violent au niveau de l'intimité que la première saison, mais je trouve que le suspense reste, d'autant plus que moi, j'avais lu le livre à l'époque. Bon, je trouvais ça pas mal, mais enfin, je n'ai pas crié au miracle. Et par contre, j'étais accrochée à la série d'emblée, comme beaucoup de gens. Je trouve qu'il y a plusieurs choses. Il y a la réalisation qui est vraiment, je suis d'accord avec vous, excellente, cette actrice qui a un charisme incroyable. Et puis, c'est très réussi dans la façon d'amener les problématiques qui sont des problématiques d'actualité, alors qu'elles ne l'étaient pas à l'époque du livre. Donc, c'est vrai que c'est une série importante à regarder aujourd'hui.
Moi, je trouve que Elisabeth Moss, elle a cette particularité d'avoir un visage d'ange et d'avoir, on sent qu'elle a une vie intérieure avec une révolte, je dirais, qui boue et qu'elle va essayer malgré tout de bouger. Et dans ce sens-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la série évolue justement vers un combat plus sur la situation des femmes que plutôt la première saison où on voit véritablement l'asservissement? Et là, on va voir plutôt des chemins de la révolte.
Tout à fait, c'est dans ce sens-là ce qu'ils veulent. C'est une militante, hein. Elle se laisse pas faire, et petit à petit, tout au long des séries, elle prend de plus en plus d'assurance dans le fait qu'elle peut résister. Avec un mobile, c'est sa fille, parce qu'elle a une fille biologique, dont elle a été séparée, la petite est placée, et elle veut pas sortir de cet univers concentrationnaire qui Gilead, sans sa fille. Donc jusqu'à la fin de la troisième saison, elle n'a toujours pas récupéré sa fille, ce qui justifie qu'elle s'arrange pour rester là, bien qu'à la fin, je ne vous le dis pas d'abord ce qui va se passer, puisque vous ne l'avez pas vu.
De toute façon, vous savez, je pense qu'il faudrait vraiment commencer à lutter contre la tyrannie des critiques de séries dont je fais partie, qui disent il ne faut pas parler des spoils, il ne faut pas spoiler, etc. Il y a un moment où, si vous voulez parler d'une œuvre, il faut parler de ce qui se passe dedans. Donc on peut ne pas écouter. Oui. Il y a un beau livre qui va paraître dans 15 jours de Sandra Logier, qui parle des séries et qui justement analyse avec beaucoup plus de finesse de ce que je viens de faire, hein, l'idée du spoiler. Parlons des œuvres, parce que ce sont des œuvres. Par rapport à ce que vous disiez sur justement Elisabeth Moss, l'avant-dernier plan de la fin de la saison 2 laisse penser que ce que vous disiez va se passer, c'est-à-dire qu'effectivement elle va se battre. Elle est prise en légère plongée, et elle lève la tête progressivement vers la caméra, et elle a un visage qui est déformé par la volonté. C'est pas du tout tendre, c'est pas du tout. On sent qu'elle va se battre. On sent qu'elle va se battre. Et il y a des moments, par rapport à ce que vous disiez, qui sont extraordinaires. Il y a un lynchage dans la saison 1, auquel elle participe. Il y en aura un dans la saison 2, auquel elle ne participe pas. Mais le lynchage de la saison 1, elle, on se dit pourvu qu'elle n'y participe pas, et on la voit prise de très près, et elle a des expressions d'une bestialité qui montrent la qualité de l'actrice, mais qui montrent aussi comment ces femmes sont tellement asservies qu'elles ont besoin de violence injuste, et elles savent que c'est injuste, pour libérer la pression de ce qu'elles subissent.
La saison 4 qui est en cours, vous avez des notions ?
Non, mais on n'est plus sur le roman d'Atwood.
Oui, on est effectivement sur autre chose, peut-être voilà. Plus sur le côté lutte de revendication d'égalité des femmes.
J'imagine, mais on
se retrouvera peut-être pour discuter de tout cela. Juste un mot avant de rentrer sur le contenu qui est l'objet de notre réunion. Qu'est-ce qui fait que vous êtes donc, je parle à Carole Desbarras, dédié à ces séries justement. Comment est-ce que vous les voyez? Parlez-nous un peu du Havre et puis des séries quoi, en général.
Tout à fait. Si vous voulez, deux femmes se sont retrouvées au moment de leur retraite, Carole Desbarras et Ginette Dissler, en se disant mais on a encore de l'énergie, on va faire des choses. Et Ginette Dissler m'a dit avec une grande générosité, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux travailler sur les séries parce que j'y comprends rien. Et je veux comprendre ce qui se passe. Je suis cinéphile depuis l'âge de 15 ans et là je sens que ce qui se passe c'est dans les séries et c'est pas dans le cinéma. Donc on a créé ensemble les rencontres sur les séries. Notre première édition a été, vous vous en doutez, sur les femmes. Mais La Servante Écarlate n'était pas encore sortie, donc on n'en a pas parlé. Cette année, le 6, 7, 8 décembre, nous faisons une série sur la police. L'an dernier, c'était la justice. Et cette année, nous allons avoir le plaisir d'avoir la meilleure showrunner française, qui s'appelle Anne Landois, qui va venir avec son consultant, qui est le commissaire Le Bars, qui va venir, qui l'a consulté sur Engrenage. Alors, pourquoi les séries? Si vous voulez, l'arrivée de la pilule, l'arrivée d'un certain type de contraception correspond à la nouvelle vague. Et ça a influé les récits de la nouvelle vague. Les séries, les belles séries, elles existent depuis longtemps, hein, mais les vraies séries, celles que nous aimons, Quality TV, dont on parle maintenant, elles datent du début des années 2000. Et elles sont héritières de ce dont, ce à quoi vous avez œuvré, vous, messieurs, dames, qui est effectivement cette séparation entre la procréation et la sexualité. Et ça a introduit une rupture symbolique énorme qui a ouvert des récits extraordinaires. Et j'avoue que là, en tant que j'aime les séries beaucoup en tant que femme. Pas uniquement, hein, mais beaucoup en tant que femme.
Myriam Segère, vous aimez les séries?
J'adore.
Très bien.
France Culture, Matière à penser, René Friedman.
Voilà, vous entendez la musique sourde, puissante, un peu inquiétante et en même temps douce. C'est ce mélange hein, autour de la série La Servante Écarlate dont nous discutons aujourd'hui avec Myriam Siéger, pédopsychiatre et psychanalyste, et Carole Desbarras, qui est membre de la rédaction de la revue Esprit et qui est animatrice et directrice artistique des rencontres des séries du Havre. Donc nous voilà, nous avons planté le décor et nous allons maintenant aborder la question de fond, en tous les cas de la première saison, hein, qui est celle de ces femmes qui sont utilisées, qui ne sont pas payées, mais qui sont utilisées de force pour porter des enfants d'un couple, bien sûr, en position sociale élevée dans cette nouvelle république dictatoriale. Et donc, on assiste, comme on l'a vu au tout début et comme l'extrait nous l'a montré, à la grande cérémonie, c'est-à-dire à la relation sexuelle en présence de la femme du commandant, de la servante qui est utilisée et dont l'issue, la grossesse, va lui permettre de survivre plutôt qu'autre chose. Mais bien sûr, elle devrait et elle devra abandonner l'enfant. Alors cet abandon d'enfant, Mme Siéger, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Abandon sur ordonnance » et c'est une thématique qui vous a beaucoup bouleversée au point que vous avez pris un peu le cheval de la révolte et de l'ouverture des esprits des uns ou des autres. Êtes-vous satisfait que en France, dans la révision des lois de bioéthique, il n'y a pas à l'ordre du jour la GPA, dont on a beaucoup parlé. Est-ce que vous pensez que c'est définitif, que ça va revenir? Vous êtes contente d'avoir milité pour que cela n'arrive pas? Et est-ce que vous prévoyez d'écrire un nouveau livre?
Alors, je suis contente qu'on arrive aujourd'hui à dire, à l'heure actuelle, on touche à rien, ça reste interdit, hein, la GPA. Pour votre question concernant le fait que ça ne fasse pas partie du projet de loi bioéthique, je suis inquiète. Dans la mesure où, si on ouvre la PMA aux femmes homosexuelles, indubitablement, dans un deuxième temps, on va avoir les hommes homosexuels qui vont dire « et nous ». Eux peuvent pas faire appel à la PMA pour faire un enfant de cette manière. S'ils veulent procréer avec leur propre gamète, ils sont obligés d'avoir recours aux mères porteuses. Donc je pense que ça ne pourra pas en rester là.
Juste un point, parce que souvent on oublie, il y a la mère porteuse et il y a une donneuse. Parce que théoriquement, dans la plupart des pays qui ont légalisé, ce n'est pas la porteuse qui donne ses ovocytes. Ce qui fait qu'en fait, dans la démarche de deux hommes qui voudraient obtenir donc un enfant, c'est deux femmes qui participent à leur projet. Et tout ce qui s'applique et qui va s'appliquer sur la levée de l'anonymat de la donneuse dans le registre général est complètement squeezé dans l'histoire de la GPA. On ne parle jamais de la donneuse. Alors, pour une bonne raison, c'est que lorsqu'on regarde par exemple les statistiques en Angleterre, où théoriquement ceci est interdit, 25% des GPA faites en Angleterre sont avec les propres ovocytes de la femme porteuse. Ce qui fait que si une femme donne ses ovocytes, porte un enfant, je vois pas très bien ce qui la différencie d'une mère classique, on va dire. Donc, notion importante, je crois, c'est qu'il y a deux femmes, en principe, qui participent à cette aventure dans le monde, ou bien c'est une femme qui donne ses ovocytes et son utérus, c'est-à-dire qu'elle se comporte comme toutes les femmes enceintes.
Tout à fait d'accord. À cela, je veux quand même rajouter qu'il y a deux femmes et aussi un enfant. Et que pour un enfant, à la naissance, ce qu'il aspire à trouver dans ce chaos qu'est la naissance, ce bouleversement probablement assez traumatique de l'arrivée dans le monde aérien, où c'est de retrouver des choses qu'il connaît déjà et qu'il a mémorisées pendant sa vie anténatale. Je veux dire par là, ce qu'il cherche, c'est ce qui lui vient de la femme qui accouche, sa mère. L'odeur du liquide amniotique, le son de sa voix, la température de son corps, les battements de son cœur. Il y a comme ça toute une série de repères sensoriels que l'enfant cherche à sa naissance pour se rassurer. Mais cette réassurance, c'est pas juste de rien, n'importe quoi. C'est ce qui lui permet de trouver une forme de sécurité qui est la base de la confiance en soi, c'est-à-dire ce que les psychanalystes appelleront plus tard le narcissisme primaire. C'est-à-dire, c'est un moment où l'enfant s'y retrouve ses repères sensoriels qu'il a mémorisés, déjà pendant la gestation, il trouve une forme d'apaisement, de reconnaissance au sens littéral du terme, puisqu'il se dit, avant c'était moi, maintenant c'est encore moi, puisqu'il y a toujours ça. Ce sont des repères identitaires.
Hein. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette façon de voir voudrait dire que les enfants qui naissent de cette façon seront perturbés sur le plan narcissique? Est-ce que vous sous-entendez cela?
Écoutez, je ne fais pas de prospection. J'attends qu'on ait suffisamment de recul, ce qui n'est pas le cas. J'ai personnellement reçu en consultation les plus anciennes GPA qui soient, puisque les toutes premières qui ont été faites en France ont dépassé la trentaine maintenant. J'ai certaines personnes qui sont
à un moment voir. C'était autorisé en France.
Voilà.
Et puis ensuite, ça a été interdit en 94.
Bon, je peux pas dire qu'ils aillent particulièrement bien. Et
non, mais si on vient vous voir, c'est qu'habituellement.
Oui,
on
c'est
a des
un
soucis.
Biais de recrutement ah, un petit peu particulier, mais enfin, je suis là pour en témoigner
bien
en
sûr,
même temps.
Bien sûr. Difficulté de toute cette histoire, c'est qu'on a pas d'études véritablement
voilà.
scientifiques qui partent de... Il y a 100 femmes qui ont fait ceci, qu'est-ce qu'elles sont devenues, tout ça. C'est toujours soit des volontaires, des égéries, soit au contraire des opposantes ou quelques-unes qui ne vont pas bien. Et c'est la difficulté, elle est qu'on tourne autour d'un manque de données.
On a un manque de données et je comprends pas qu'on décide pas en France de faire des recherches à proprement parler. De toute manière, on se heurte quand même au fait que le recul, il est léger. Freud nous disait que pour faire de la psychopathologie, il nous fallait 2 générations, voire 3. C'est pas avec les petits enfants qui sont nés maintenant qu'on peut avoir une idée de ce qu'ils vont devenir plus tard. Car le traumatisme, surtout le traumatisme précoce, c'est quelque chose qui va être réactualisé par divers événements de la vie, et en particulier, je pense, les séparations, en l'occurrence, c'est-à-dire les deuils, les divorces, l'adolescence, enfin partout où il est question de passer à autre chose, et la maternité, où là, on va peut probablement rencontrer une vulnérabilité chez ces personnes, car indubitablement, ça va réactiver des choses du début de la vie, comme on voit maintenant, d'ailleurs, chez les personnes qui ont été abandonnées à la naissance, au moment où elles mettent au monde leur enfant. Hein, elles sont particulièrement bouleversées, voire déprimées, en tout cas très anxieuses. Et les équipes des maternités le savent très bien, puisque quand elles signalent ces personnes, elles disent « Oui, tu sais, elle a été abandonnée à la naissance, et c'est un facteur de risque important pour elle. » C'est connu en clinique. Donc, pour en revenir à mon bébé, parce que je n'avais pas terminé avec mon bébé, je crois que j'en aurais jamais terminé avec
ce
les
que
bébés.
Dire.
Eh bien, ce bébé à la naissance, qu'est-ce qui va le calmer s'il se met à pleurer? Hein, c'est pas qu'on lui dise que les personnes qui sont là ont donné leur gamète, c'est de trouver le corps de la mère qui l'a porté, hein, parce que pour lui, c'est elle sa mère. C'est pas qui que ce soit d'autre. C'est
vous
pas ses gamètes qu'il reconnaît à la naissance.
Vous voulez dire par l'odeur,
tous les repères sensoriels qu'il sécurise, c'est elle qui les détient. Et s'il doit dire maman, ça sera à elle, ça sera pas à l'autre.
Ceci dit, il y a des enfants qui, pour des raisons médicales, naissent prématurément, sont séparés de leur mère et ne peuvent pas les retrouver. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas avoir des difficultés d'élaboration, hein, j'entends bien. Mais on essaye de masquer ce manque par une présence médicale ou affective, ou une audition, le son de la voix, enfin tout ce qui peut être la présence d'un nouveau corps ou d'un nouveau être qui va irradier cet enfant abandonné.
Est-ce qu'on essaye surtout avec les enfants prématurés séparés de leur mère, le corps médical s'est donné beaucoup de mal pour ça, c'est de faire des rapprochements le plus tôt possible et le plus vite possible et le plus possible, parce qu'ils ont aperçu que les enfants, quand ils sont en contact avec leur mère de naissance, se rétablissent beaucoup plus vite, vont beaucoup mieux, déjà, d'emblée. Donc, je crois que le corps médical se donne un mal fou pour ne pas séparer la mère de l'enfant. Ils ont inventé les unités kangourous, qui sont faites pour rapprocher justement les prématurés de leur mère, de manière à ce qu'ils puissent être soignés auprès d'elle. Et tous ces médecins qui se donnent un mal fou, on leur demande, le même corps médical, on leur demande après de programmer des enfants hein, destinés à être séparés à la naissance de la mère qui les a mis au monde. Je pense qu'il y a un paradoxe là sur lequel je me permets de mettre le doigt.
Alors pour vous, c'est qui la mère dans toute cette histoire de génétique d'utérus et d'élevage ? Les trois stades, quoi.
C'est vrai qu'il y a du monde hein, autour des enfants d'aujourd'hui. Hein. Il y en a des parents.
Il peut y en avoir.
Il y en a des parents. Et puis, les enfants sont assez sympathiques. La plasticité des enfants, ils s'attachent. Hein. Si on les aime, ils s'attachent. Ils peuvent même se mettre à ressembler à ceux qu'ils aiment. Ils font des tas de choses formidables. Ils s'adaptent. Mais je crois que ces adaptations peuvent se faire au prix d'un déni au niveau de l'inconscient, qui n'est probablement pas sans conséquence sur leur futur.
Vous voyez que dans la société, on a évolué de la revendication de la GPA commerciale, comme ça se passe dans beaucoup de pays, pour une nouvelle forme de GPA qui serait, entre guillemets, une GPA éthique, c'est-à-dire auquel il n'y aurait pas de lien d'argent. Parce que une des raisons sur lesquelles beaucoup de gens s'opposent à la GPA, vous êtes souvent le porte-parole de l'enfant, on vous a écouté, on connaît vos travaux. Souvent, les personnes qui s'opposent au principe de la GPA, c'est justement, on revient au film, c'est l'exploitation de la femme par d'autres. Et c'est surtout une défense donc de la femme qui est utilisée, aliénée, je dirais, de force ou commercialement parlant, comme dans Top of the Lake, par exemple, dont nous parlions tout à l'heure. Et donc ma question, elle est la suivante. Comment vous réagissez par rapport à cette revendication qui serait repeinte, quoi, c'est-à-dire non mais nous on est pour une GPA éthique, c'est-à-dire non commerciale.
Écoutez, on a déjà l'expérience en Angleterre entre autres que rien ne va vous garantir qu'il n'y ait pas des dessous de table dans l'affaire. L'enfant est commercialisé, devient un objet de contrat. Même si ce contrat ne stipule pas qu'il y a échange d'argent, qu'il y a juste un entre guillemets dédommagement, c'est pas contrôlable cette affaire-là. Et en tout cas, et on voit bien comment le marché s'est développé sur Internet et dans les autres pays, il y a des fortunes mises en jeu dans ce marché, ce baby market, où les enfants sont manipulés de cette façon et les femmes utilisées. Je crois que la GPA éthique est quand même assez illusoire.
Imaginons que il n'y ait pas de dessous de table et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Parce que l'autre situation, d'ailleurs, elle est que pourquoi est-ce que c'est automatiquement commercial ? C'est parce qu'il y a des contrats qui sont faits hein, pour protéger les uns les autres. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les contrats américains, mais c'est quasiment une série. Hein, c'est-à-dire la mainmise sur les conduites, la boisson, l'alimentation, les relations sexuelles. C'est une intrusion dans la vie intime de façon démesurée à l'américaine, véritablement. Donc c'est vraiment un point qui fait hérisser. Mais disons, imaginons qu'on est plutôt dans une relation intrafamiliale ou bien intra-amicale, et qui est véritablement, il n'y ait pas de problème d'argent. Comment est-ce que vous analyseriez cette situation ?
Écoutez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème d'argent qu'on évacue la question de la dette. Et je crois que toute dette aspire à être remboursée. Sinon, ça fait des dégâts. Hein, il suffit que votre copain vous doive de l'argent, vous le donne pas, lui va se sentir coupable et vous allez être embêté. Je crois que la dette, dans ces affaires-là, va donner...
La dette psychologique, vous voulez dire.
La dette psychologique, elle est incontournable.
Et donc, c'est un des éléments qui vous fait penser que il n'y a pas de côté éthique dans cette transaction.
C'est pas possible, même dans les transactions intrafamiliales, où justement la dette peut donner naissance à des situations les plus cocasses, hein, celles qui auront l'impression de réparer quelque chose, celles qui revendiqueront quelque chose par rapport à l'enfant, etc. Je pense que c'est pas pour rien que dans les affaires de dons d'ovocytes, on a un peu abandonné l'idée d'amener une donneuse qui était souvent familiale pour faire accélérer le processus, parce que on s'est aperçu que ça avait des effets dans les familles qui n'étaient pas forcément extraordinaires.
Même si elle ne donnait pas directement.
Absolument.
Il y a un point sur le projet de loi actuel qui va être discuté là au Parlement, qui est celui de la déclaration anticipée de volonté des femmes en couple homosexuel, en particulier. On ne sait pas très bien si cette déclaration anticipée de volonté est proposée que pour les couples homosexuels, ce qui serait déjà un grand point d'interrogation, et même pour tout le monde. Et ma question, elle est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que si cet argument passait, ce qui, moi, personnellement, me choque, parce que, du coup, on arrive à mettre quelque part dans le fichier de l'État le mode de conception d'un enfant, ce qui me fait penser que c'est un peu un tatouage pseudo-caché, parce qu'il ne restera jamais caché. Mais c'est pas là le sens de ma question que je vous pose, Myriam Segers. C'est que, dans le cadre d'une déclaration anticipée, est-ce que ce n'est pas valoriser la déclaration d'intention de maternité ou de paternité, la mettre en avant avant même la réalité, et donc par là même d'ouvrir dans une deuxième phase la voie à la GPA qui sera la reconnaissance des mères d'intention?
Oui, je vois bien votre argumentation, ça me paraît effectivement intéressant et je pense que peut-être que tel qu'il existe dans les dons où les parents d'intention vont chez le notaire hein, pour affirmer qu'ils ont l'intention de bien être les parents de l'enfant qui va naître.
Ce qui pose un problème, hein, parce que maintenant il n'y a que le notaire, avant il y avait le juge et le notaire c'est au moins 300 euros, entre parenthèses, alors que le juge ça ne l'était pas.
Oui, bon, voilà. C'est bon, une information que vous donnez, je suis contente de l'acquérir. Je ne sais pas si ce processus-là n'était pas suffisant. Peut-être est-il suffisant ou peut-être est-il à compléter. Est-ce que l'inscription sur l'état civil ne va pas stigmatiser justement certaines formes de conception, voire certains sexes? Je ne suis effectivement pas sûre que ce soit la meilleure réponse.
Je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'on gagne. Hein, je veux dire, par rapport à part une volonté de transparence qui n'existe pas, par définition, dans le monde tel qu'il est, dans toutes les situations possibles et imaginables. La transparence absolue, c'est aussi absolue et aussi imposée que l'a été l'anonymat pour tous. Là, c'est la transparence pour tous. Je veux dire, donc, ça mérite quand même un peu un recul de pensée, me semble-t-il. Et surtout, moi, je crains que ça ouvre la porte, et je suis sûr qu'il y a des associations aujourd'hui qui défendent ce point de vue et qui sont par ailleurs, comme par hasard, des militants, des associations militantes pour la place de la GPA, y compris en France.
Comme par hasard.
Comme par hasard, exactement. Donc ça mérite une vraie réflexion par rapport à cela. Que l'enfant puisse, je dirais, être informé par la responsabilité des parents qui s'engagent, comme tout homme et femme qui, ou femme d'ailleurs, qui veulent un enfant, ça me semble c'est leur responsabilité et on peut pas s'y substituer. Si l'État se substitue, ben on arrive à la République de Gilead. Voilà, je me tourne vers Carole Desbarra pour...
C'est très frappant parce que beaucoup des éléments dont vous avez parlé, là maintenant, se trouvent dans la série. Que ce soit la surveillance alimentaire de la mère porteuse, que ce soit la question de l'argent, puisque dans la série, Moira a fait une GPA dans son passé, elle s'était fait payer 250 000 dollars. Qui allait lui permettre de s'en sortir financièrement. Beaucoup de ces éléments sont présents et en vous écoutant, je me disais que les séries ont un rôle par rapport à la science et par rapport à l'état de la société d'alerte. Et il y a dans La Servante écarlate un moment extraordinaire où l'héroïne principale, June, dit « I tell, therefore you are ». Je raconte, donc vous existez. C'est-à-dire cette foi qu'ont les showrunners, les meilleurs hein, bien sûr, qu'ils vont faire une espèce de radiographie, de sismographie de la société et de nous permettre de la voir.
Carole, redites-nous exactement ce que c'est qu'un showrunner.
Parce que ah oui,
c'est
bien
pas,
sûr, bien sûr.
C'est pas véritablement
c'est nouveau, c'est vrai,
oui,
c'est vrai que c'est
plus.
Nouveau. C'est donc cette profession qui est née à la suite de l'efflorescence des séries à la fin du XXe siècle, au début, dans la première décennie de notre siècle. Et c'est un pouvoir tout à fait particulier d'hommes ou de femmes qui sont à la fois producteurs, donc qui ont le pouvoir de l'argent, ce qui n'est pas rien, mais qui sont également scénaristes, donc qui ont le pouvoir du sens, et qui sont également, par moments, réalisateurs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mainmise intellectuel, du sens, de l'émotion, de l'argent, de l'économique, sur une série, à travers ces hommes et ces femmes en France. On commence à avoir des showrunners de renom. Éric Rochant, par exemple, pour le Bureau des Légendes, a fait un travail fantastique. Je vous parlais d'Anne Landois, qui a fait ce très très beau travail sur Engrenage. Fanny Herrero sur 10%. On commence à en avoir quelques-uns. Très curieusement, la FEMIS, l'école de cinéma dans laquelle je travaillais, a créé une formation showrunner, ce que je trouve très proactif, parce qu'on a 4 ou 5 showrunners en France, Ben, tant mieux, hein, qui forme, qui allons-y, que les jeunes soient formés.
De toute façon, la FEMIS est très sélectif, hein, pour rentrer dedans, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, vous allez avoir un showrunner.
C'est vrai.
Deux,
non, c'est vrai,
peut-être,
c'est vrai.
Je ne sais pas.
4-5 par an.
Allez, 4-5 par an. Bon, ça s'est agrandi depuis.
Mais je pense effectivement que les séries ont un rôle.
Mais MCGR.
J'ai regardé cette série qui a moins fait parler d'elle, mais qui s'appelait Orphan Black, qui était sur les clones. J'étais sidérée de voir comment ils étaient informés. Et comment, au fil des saisons, je travaille en PMA, donc je connais un petit peu la chanson, et les scénarios tiennent compte de détails, de possibilités à la limite de ce qu'on fait. C'est de la science-fiction, mais c'est vraiment pas loin. Et je crois qu'actuellement, il y a un travail colossal de fait sur ces scénarios.
C'est une caractéristique de ces nouvelles séries. Elles sont très documentées. Vous entendrez le dire et confirme.
Pour prolonger un peu ce débat et cette réflexion, Myriam Siéger, je vous avais posé une question tout à l'heure. Si on veut poursuivre la réflexion, vous pilotez la sortie d'un livre dont j'aimerais connaître le nom.
Le titre, c'est « GPA, un abandon sur ordonnance » aux éditions Langage. C'est une édition qui sort à la fin du mois de septembre. C'est une édition qui a été épuisée chez Bayard et qui ressort maintenant dans une version augmentée et plus travaillée.
Merci de vos participations à toutes les deux. Voilà, merci à Myriam Siéger et Carole Desbarin pour nous avoir initié à cette série La Servante Écarlate et les thématiques sous-jacentes autour de la GPA qui conclut ainsi notre série sur science-fiction, science du futur ou bien science-fiction et médecine actuelle dans la société. C'est une série qui reprendra un peu plus tard sous d'autres formes parce que c'est tellement riche que j'en suis devenu addict. En tous les cas, cette émission a été rendue possible grâce à Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Dany Journeau, Delphine Baudet. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre page internet, réécouter autant que vous le voulez, et puis le site internet franceculture.fr. Et ce lundi, vous allez retrouver Antoine Garapon pour une nouvelle série. À bientôt.